Nous avons vu les deux dernières fois donc tout l'essentiel des points importants qui définissent la vie de Nietzsche. On retiendra plusieurs choses, on retiendra un point important du point de vue de notre question morale, que Nietzsche est incontestablement un philosophe qui est au fond moral, malgré sa critique radicale de la morale, dans la mesure où il a tenté de vivre conformément à sa pensée. C'est-à-dire qu'on a vu comment son existence était en conformité avec ses idées, et ça c'est quand même un point majeur d'une exigence morale. C'est même l'intitulé de notre question pour cet atelier. Et chez Nietzsche, c'est incontestablement vrai. Alors, en quels termes? Ben, en particulier, alors qu'il était un étudiant brillant remarqué par ses professeurs et qui a obtenu à 24 ans, ce qui est extrêmement jeune, un poste de professeur à l'université de Bâle, qui était quand même à l'époque une université importante, Nietzsche a abandonné assez rapidement cette carrière universitaire parce qu'il estimait que c'était pas les conditions de l'enseignement n'étaient pas conformes à ses exigences personnelles. Il a refusé très tôt donc de s'institutionnaliser en quelque sorte. Alors après, il ne faut pas voir non plus ça de façon idyllique, hein, parce qu'il y a aussi le fait, il y a d'autres raisons dans son abandon d'une carrière brillante universitaire. Une première raison est incontestablement le fait qu'il était orienté vers la philologie, donc l'étude scientifique des textes anciens, et que Nietzsche, assez rapidement, s'est rendu compte de l'impasse d'une approche scientifique des textes, et plus largement, ça renvoie, on va en dire quelques mots, à sa critique assez radicale de la science en général, comme pour lui une idéologie désastreuse. Donc ça c'est une raison quand même majeure, c'est pas simplement son exigence d'être conforme à sa pensée, c'est aussi qu'il s'est rendu compte que la philologie, pour parler brutalement, l'emmerdait prodigieusement. Donc ça a joué un rôle important, et puis il y a un troisième facteur qui a joué quand même dans son abandon d'une carrière institutionnalisée. C'était un piètre professeur, il avait très peu d'étudiants, c'est le moins qu'on puisse dire, ça passait pas, et qu'il était atteint déjà par sa maladie récurrente, dont on avait parlé, sur lequel je ne reviens pas, qui se traduisait par des migraines ophtalmiques très violentes et qui l'obligeaient à s'aliter. Je rappelle que l'hypothèse la plus probable, entre autres explications médicales, c'est sans doute qu'il avait été atteint, parce qu'il y fait allusion dans un texte, par la syphilis au cours de ses années estudiantines. Voilà. Donc ça c'est un premier point qui caractérise son existence, quoi, d'avoir été hors institution. Et on peut concéder que pour une part il y avait chez lui une exigence d'authenticité, d'accord avec lui-même, mais pas seulement. Pour finir sur cela, on va rentrer dans son œuvre maintenant proprement dite. Pour rappeler les choses à tout le monde, je vais citer dans un ordre chronologique ses principales publications, ses principaux livres quand même. Avoir en tête, se familiariser au moins avec les titres, c'est important. Donc, chronologiquement, le premier livre, je dirais important, qui est paru en 72 dans sa première édition, en fait il y a eu plusieurs éditions successives, c'est La naissance de la tragédie. La naissance de la tragédie qui reste un texte au fond marqué par son savoir philologique. Pour le coup. Ce qui est intéressant, parce qu'on ne le sait jamais, c'est de se souvenir du sous-titre qu'il a donné à ce livre. C'est l'hellénité et le pessimisme. Donc ça c'est intéressant, cette note qu'il donne à ce titre. C'est-à-dire que pour lui, la société grecque, telle qu'elle se donne la tragédie, la tradition des tragiques, c'est une société marquée par un pessimisme incontestable. Le pessimisme de la tragédie, qu'on va retrouver aussi chez un Racine pascalien, c'est quoi? C'est que l'homme est dans un destin. Ce destin, c'est qu'il est toujours dans un conflit, une tension entre des déterminations qui pèsent sur lui et une aspiration à la liberté. Et dans les déterminations qui pèsent sur lui, dans la tragédie, il y a notamment les pulsions qui viennent de l'individu, du corps et de sa psyché, du corps physique et mental, voilà. Et qui l'entrave et qui l'aliène d'une certaine manière, et donc qui définissent son destin. Donc c'est le schéma récurrent de la tragédie grecque qui, pour Nietzsche, signifie une forme de pessimisme par rapport à la conception qu'on peut avoir de la vie humaine. Ensuite, un second titre, je passe très vite sur cela, qui est paru entre 73 et 76, donc 1873 et 73, qui est un autre livre important, qui est divisé en sous-livres, en grande partie, dans chacune des titres, je passe dessus. C'est ce qu'on a retenu en français comme titre, les considérations inactuelles. Du coup, ça, il s'intéresse, alors c'est lié notamment à ses lectures, il s'intéresse notamment à Schopenhauer, ce qui fait l'objet d'un des livres. Il s'intéresse à Wagner, dont je rappelle qu'il s'est éloigné. Alors ça fait partie aussi de ces exigences qu'on pourrait qualifier de morales. Vous savez qu'il est très lié à Wagner, au cercle wagnérien, ce qui était important à l'époque, parce que Wagner et les cercles wagnériens étaient tout puissants. Et donc, il serait resté dans une stratégie de positionnement social, il aurait eu intérêt à rester bien avec Wagner et les cercles wagnériens, parce qu'ils avaient la toute-puissance. Voilà. Et il s'en est éloigné, et il a eu des propos extrêmement violents à l'égard de Wagner, quand il s'est rendu compte que Wagner s'adonnait largement, et les cercles autour de lui, à l'antisémitisme. Et contrairement à ce qu'on peut... Nietzsche, clairement, a toujours combattu l'antisémitisme. Dans un premier temps, il avait eu un éditeur qui avait publié des livres antisémites et qui lui-même était antisémite. Il a quitté cet éditeur. Par la suite, bien après, donc sa sœur s'est mariée avec ce Forster, qui était un antisémite notoire et virulent. Il s'est fâché avec sa sœur, etc. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute, contrairement à des fausses interprétations, Nietzsche était intransigeant par rapport à l'antisémitisme. Et donc, par la suite, le nazisme. Et donc, ça, c'est la rupture avec Wagner, qui en est la cause principale. Il y a d'autres raisons plus affectives, c'est que Wagner était un homme très méprisant et qui méprisait, malgré leur amitié, y compris Nietzsche, etc. Un antisémite qui vient d'une certaine partie du catholicisme. Aussi, on ne va pas faire l'histoire de l'antisémitisme, ça serait trop long et compliqué. Il faut savoir, par exemple, en Allemagne, antérieurement encore au XIXe siècle, quelqu'un comme Luther a eu des propos antisémites. Donc voilà, c'est une vieille histoire, mais qui va connaître un point paroxystique dans l'Europe, et notamment l'Allemagne, de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et qui va se nouer dans l'idéologie nazie. Voilà. C'est ce qu'on disait. Oui, sa sœur, qui était profondément antisémite, mais aussi nazie, parce qu'elle a vécu plus longtemps, donc... Oui, c'est le problème de ce livre publié posthume et édité par sa sœur, qui est La volonté de puissance, de ce point de vue. Voilà. Donc ensuite... En 78, je poursuis chronologiquement les repères des principaux livres pour que vous les ayez un peu en tête. Il publie donc Humain, trop humain, dont le sous-titre, c'est toujours intéressant les sous-titres, c'est Un livre pour esprit libre. Donc je passe sur un certain nombre de titres parce qu'il a beaucoup publié, Nietzsche. Ensuite, il y a Aurore, comme une aurore, qui paraît en 81, donc un peu plus tard, et dont le sous-titre est « Pensée au pluriel, sur les préjugés moraux ». L'année d'après, alors « Pensée sur les préjugés moraux », on abordera, vous, je l'ai donné un texte extrait d'Aurore, mais ça, cette question-là, de la critique de la moralité comme étant une construction de préjugés, traverse toute son œuvre. Hein. On retrouve ça dans plein d'autres livres de Nietzsche. Donc ensuite, en 82, il publie le Gai Savoir, c'est la Gaia Scienza, enfin le Gai Savoir en français, qui est traduit par le Gai. Alors, Gaia Scienza, ça veut dire strictement Gai Savoir. Hein. Le titre français ne traduit pas le titre italien qu'il a donné au livre. Quoi. En 85, ensuite, donc on se poursuit, il publie donc un livre très important et très compliqué, et qui est souvent mal interprété, parce que il peut être d'un côté incompréhensible, il faut être clair, c'est « Ainsi parlait Zarathoustra ». Bien qu'il l'ait sous-titré, je trouve ça un peu ironique, mais « Un livre pour tous et pour personne ».« Un livre pour tous et pour personne, ainsi parlait Zarathoustra », où l'on retrouve, malgré sa critique du christianisme, on y reviendra, une fascination pour la figure de Jésus en particulier. Quoi. Autre livre important qui paraît l'année suivante, donc en 1886, c'est « Par-delà le bien et le mal », qui poursuit sa réflexion critique sur la morale, en fait. C'est-à-dire que le problème de Nietzsche, quand même, il faut le souligner, son œuvre est majoritairement une œuvre critique. Comme il dit, la philosophie à coup de marteau, quoi. C'est-à-dire que c'est une œuvre critique qui déconstruit ce qui a été repris par les philosophes français dans les années 70 et la suivante sous le terme de « déconstruction ». C'est avant tout un philosophe de la déconstruction. Mais la construction est beaucoup plus compliquée à cerner chez lui, parce qu'elle est fragmentaire, très fragmentaire et contradictoire. Donc c'est très compliqué on l'abordera après, de construire de façon certaine une pensée positive, cohérente de Nietzsche. Avant tout, un coup de balai, Nietzsche. Voilà. Ensuite, donc rapidement, justement, apparaît en 88, donc l'année d'après, le crépuscule des idoles. Le crépuscule des idoles, ou comment philosopher à coups de marteau, précisément. Donc ça, c'est paru en 1888. Le crépuscule des idoles, ou comment philosopher à coups de marteau. Bien après, paraît... Seulement en 95, parce que il l'a écrit bien avant, mais il y a eu des retards dans la publication, il l'a écrit en 88, la même année, c'est l'Antéchrist, le fameux Antéchrist, le sous-titre étant plus explicite, imprécation contre le christianisme. Le titre français étant assez fidèle au titre allemand d'ailleurs. En 88, alors là c'est paru la même année qu'il achève l'écrit, c'est le fameux Ecce Homo. Voici l'homme. Ecce, E de CE, hein, Ecce Homo. Donc je rappelle, c'est là qu'on voit tout le rapport très ambigu de Nietzsche au christianisme. Ecce Homo, vous savez d'où ça vient? Des évangiles. Ecce Homo, c'est Jésus. Le sous-titre d'Ecce Homo, c'est comment on devient ce que l'on est. Mais dans beaucoup de livres de Nietzsche, il y a une répétition des mêmes thèmes. Hein. Et notamment, vous le voyez même dans les titres, la question de la morale, de la critique de la morale, traverse plein de ces livres. Voilà quels sont ses principaux livres. J'ajouterai, pour être complet et finir, qu'il est intéressant de noter qu'il publie ensuite « Le cas Wagner », où là, définitivement, il règle ses comptes à Wagner. Et puis alors, le fameux livre posthume, édité par sa sœur, donc La volonté de puissance. Lui qui a été complètement repris par les nazis, et le montage de son éditrice, c'est-à-dire sa sœur, était intentionnellement dans ce sens. C'est-à-dire que sa sœur voulait montrer, effectivement, comment Nietzsche, l'aboutissement de Nietzsche, c'était le nazisme. Mais encore une fois, c'est une faute grave de considérer ça, en tout cas sur la question de l'antisémitisme, et même sur d'autres questions c'est des interprétations qui sont erronées et en partie anachroniques. Nietzsche est mort nettement plus tôt que sa sœur, donc il n'a pas été véritablement contemporain en plus du nazisme, quoi. C'est le problème de l'édition d'un texte et du rôle de l'éditeur qui est essentiel. Quand on a des manuscrits, des brouillons de quelqu'un, d'un auteur qui est mort, l'édition, c'est toujours une interprétation. Forcément. La façon dont on retient tel texte, dont on corrige des manques, des blancs, des erreurs, la façon dont on assemble les textes, c'est un rôle déterminant qui incombe à l'éditeur et qui oriente les textes de telle ou telle manière. C'est pour ça que dans l'histoire de l'édition, il y a beaucoup d'éditions multiples de tel texte, parce que ensuite il y a des gens qui ont creusé la question de tel auteur et qui se rendent compte que l'édition qui est parue n'est pas correcte, qu'elle infléchit dans un sens la lecture du texte et qui refont une édition en modifiant. Voilà, c'est constamment cela. À partir du moment où un auteur est mort, l'édition est un travail plus important simplement que de servir un texte, quoi. C'est un travail qui oriente le texte. C'est à juste titre qu'on peut dire que La volonté de puissance est un livre qui sert le nazisme, de ce point de vue-là. Oui. Voilà, bon. Voilà donc les principales œuvres qui jalonnent le parcours de Nietzsche, parmi bien d'autres, parce qu'encore une fois, il a beaucoup plus publié, mais je laisse de côté tout le reste, on n'a pas le temps. Donc, rentrons maintenant dans le dur, le vif du sujet. Donc, dans un long premier temps, qui nous mènera au-delà d'aujourd'hui, on va aborder ce que je disais tout à l'heure, qui est quand même le gros morceau de son œuvre, la philosophie à coups de marteau, c'est-à-dire sa déconstruction de la métaphysique et surtout de la morale occidentale, la morale européenne qui est fondée sur la métaphysique européenne. La métaphysique européenne qu'il situe, à juste titre, ancré, fondé dans Platon. C'est pour ça, je le rappelle, je l'ai déjà dit, que Nietzsche, philologue, met en avant les pré-socratiques, c'est-à-dire les philosophes qui sont avant Socrate, c'est-à-dire au fond avant Platon, vu que Socrate en tant que tel n'a rien publié, hein, on connaît Socrate principalement à travers Platon. Donc les pré-socratiques, c'est tous ceux qui ont précédé, qui sont Parménide, dont Platon se sert beaucoup. D'ailleurs, un des livres de Platon, je le rappelle, s'appelle le Parménide. Hein. Donc, Parménide, l'antithèse, pour simplifier, du Parménide, parmi les pré-socratiques, c'est Héraclite. Hein, je rappelle, c'est important, la différence. La pensée de Parménide, c'est une pensée qui affirme la permanence de l'être. C'est que le monde obéit à un ordre permanent, qui lui donne une certaine harmonie, et que le principe d'ordre du monde, c'est l'être qui est dans la permanence. Alors que Héraclite, à l'inverse, lui, est beaucoup plus dans l'idée que le monde et les étangs, c'est ce qui existe, est dans un flux permanent de transformation et dans le devenir permanent. C'est Héraclite qui dit, et ça résume bien, on ne se baigne jamais deux fois dans la même eau du fleuve. Parce qu'un fleuve est dans un flux, et c'est jamais la même eau au sens strict. Voilà. Donc ça, c'est Héraclite. Et une troisième figure importante des pré-socratiques, et qui pour Nietzsche est essentielle dans un long premier temps, c'est Démocrite, ça s'écrit comme ça se prononce, D-E à la fin, et Démocrite étant celui qui invente une théorie qui va être importante par la suite, notamment les épicuriens, etc., une théorie de la physique, c'est-à-dire l'organisation du monde comme nature, qui est la théorie atomiste, ce qu'on appelle la théorie atomiste, c'est-à-dire le monde est composé d'atomes, l'homme, l'âme, tout est composé d'atomes qui s'agrègent entre eux et qui donnent des formes variées selon le système des agrégations qui obéit au hasard très largement. Voilà en gros les trois grandes figures qui pour Nietzsche sont beaucoup plus importantes et décisives parce qu'il considère qu'à partir de Platon, c'est le début du malheur de l'Europe et de l'Occident. Pourquoi ? Parce que Platon affirme l'idée, Nietzsche le dit comme ça, mais on va revenir dans des textes, l'idée qu'il y a deux mondes. Il y a deux mondes séparés qui communiquent entre eux. Il y a le monde sensible, le monde visible, qui est le monde, ce qu'on appelle couramment le monde dont chaque être humain peut faire l'expérience dans sa vie quotidienne, à travers les sens, les sensations, etc. Mais pour Platon, il y a par ailleurs ce qu'on a pu appeler, et que Nietzsche appelle comme ça, l'arrière-monde, un arrière-monde qui est aussi réel, c'est ça qu'il faut comprendre chez Platon, il est aussi réel que le monde sensible, voire plus réel, oui, qui est le monde de l'idée, le monde des idées. On peut dire être au ciel, mais ça c'est une représentation secondaire. Ces deux mondes sont en interaction, hein, ils ne sont pas séparés pour autant. Mais il y a incontestablement une dualité qui va se traduire par une forme de dualité dans sa conception de l'homme, c'est entre le corps matière et l'esprit qui appartient au monde des idées. Voilà. En réalité, même si Nietzsche fait une critique de Platon en ces termes-là, quand on creuse vraiment Platon, on se rend compte que c'est pas aussi simple et binaire que cela. Il y a effectivement ces deux principes, ces deux pôles, ces deux plans de réalité, mais on peut aussi considérer que chez Platon, il y a une forme de valorisation du corps, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et il y a aussi un binarisme, comme dit Nietzsche, qui est en fait beaucoup plus brouillé et complexe, parce que ce binarisme, c'est pas un cloisonnement entre ces deux plans ou ces deux mondes. Il y a des allers-retours en permanence, et qu'il y a une forme spirituelle de la matière. Ce qui amène certains philosophes qui se revendiquent du matérialisme à être en même temps platoniciens. Il y a même des philosophes qui vont considérer que Platon est un philosophe matérialiste au sens où, en d'autres termes philosophiques, je réintroduis ces notions, vous savez qu'on peut traduire ce que je viens de dire, ces deux mondes, selon les concepts d'immanence et de transcendance, d'accord ? L'immanence, ça correspond à ce qui est l'objet de l'expérience immédiate, hein. L'immanence, ça renvoie donc à ce monde sensible. Et la transcendance, ça renvoie au monde de l'idée, précisément. Donc, il y a des philosophes platoniciens qui soutiennent, je pense notamment à celui que j'aime beaucoup, qui est Guillardreau, qui soutiennent que Platon est une philosophie de l'immanence, au sens où la forme des idées est inscrite dans la matière. Que la matière n'est pas que le règne du chaos. Voilà. Donc, dans un premier temps, venons-en donc à travers quelques textes que je vous ai donnés à cette critique de la philosophie morale chez Nietzsche, qui est une critique de Platon et de la métaphysique platonicienne. La métaphysique, hein, je rappelle, c'est un terme qui date d'Aristote. Et c'est simplement le titre d'un livre. C'est-à-dire qu'Aristote commence par s'intéresser à la physique, c'est-à-dire au monde immanent, en d'autres termes, la physique, qu'il pense. C'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'Aristote, c'est d'une certaine manière un fondateur de la pensée scientifique européenne. Et ensuite, il va s'intéresser à la métaphysique. Alors, métaphysique, c'est ce qui vient après. Ça veut dire juste ça en grec. C'est ce qui vient après la physique. Et la métaphysique, c'est précisément, chez Aristote, dans la continuité de Platon, l'approche de ce qui n'est pas immédiatement physique, sensible, immanent, d'accord ? Donc, de l'arrière-monde, d'accord ? Voilà, donc, la critique de Nietzsche de la morale renvoie à sa critique de ce qu'il considère être les fondements de la morale, à savoir la métaphysique platonicienne, mais aussi aristotélicienne, et dans la continuité, la métaphysique chrétienne. Juste titre, pourrait-on dire, parce que la métaphysique chrétienne est très largement inspirée, philosophiquement, dans la dimension doctrinale du christianisme, hein, c'est la dimension du système d'idées du christianisme, c'est très largement inspiré de Platon. C'est une lecture de Platon, le christianisme. Alors, qu'on peut contester, c'est-à-dire qu'on peut dire que c'est une mauvaise lecture ou c'est une lecture orientée de Platon. Il n'en demeure pas moins que c'est quand même une lecture de Platon. Donc, est légitime, du point de vue de Nietzsche, de mettre dans le même sac le platonisme, l'aristotélisme et le christianisme. C'est légitime tout à fait. Ils sont au fondement, dit-il, de la morale occidentale, de la morale européenne, laquelle morale est la source des malheurs du monde, qui est la source de ce qu'il nomme le nihilisme européen. Donc, dans un premier temps, on peut dire que pour Nietzsche, la morale est un problème, est le grave problème de l'Europe, et qu'il s'agit d'opérer un retournement complet des valeurs qui structurent la vision morale de l'homme européen. Il faut retourner tout ça. Et pourquoi cette nécessité? Parce que il considère que la morale platonico-chrétienne est la source, encore une fois, du nihilisme européen, détruit véritablement l'homme européen et crée une forme de décadence de l'Europe. Il le dit en termes, ce constat qu'il établit, il le dit en termes forts, et il évoque notamment, c'est dans Sarasustra, le constat que l'Europe connaît la mort de Dieu. Dieu est mort, dit-il. Dieu est mort, et du coup, comme l'homme et la vie de l'homme est basée sur Dieu, il est impératif que l'homme européen réinvente sa vie, réinvente son devenir, son avenir. Parce que comme Dieu est mort, tout s'effondre. Et comme ça s'effondre, c'est le nihilisme qui l'emporte. Dans la perspective de Nietzsche, il s'agit de détruire, alors pour reconstruire, le problème c'est que la reconstruction, on verra ça après, est problématique. Quoi. Et elle est problématique pas simplement pour des raisons conjoncturelles. Il serait mort trop tôt, il aurait été affaibli trop tôt. Il y a des raisons nécessaires, mais on y reviendra bien après. Ce nihilisme qui lui paraît avoir envahi l'Europe, qui résulte du fait que le fondement, c'est-à-dire Dieu, est mort, c'est ce premier constat que Nietzsche établit avec une force et une virulence totale. Alors, je vous rappelle, hein, Dieu est mort, alors vous savez, si Dieu est mort, tout est permis, etc., c'est une formule qui avait été mise en avant par Dostoïevski, écrivain russe chrétien, très chrétien. On peut voir comment toute l'œuvre romanesque de Dostoïevski est une œuvre chrétienne. On peut voir comment l'idiot, par exemple, qui est un de ses livres les plus intéressants, l'idiot, c'est la figure de Jésus. C'est les béatitudes, l'idiot, c'est heureux les pauvres en esprit. Et voilà. Mais l'expression, ça c'est pour la petite histoire, c'est pas très important, de la mort, du constat de la mort de Dieu, l'expression, ça remonte à avant Dostoïevski, et c'était un écrivain, philosophe romantique allemand qui s'appelait Jean-Paul, prénom français, qui au fond a le premier, semble-t-il, mis en avant cette formule, mais ça n'a aucune importance. Pourquoi constate-t-il que Dieu est mort? Eh bien parce que l'Europe, qui était dominée par la chrétienté jusqu'au XVIIIe, une organisation morale, philosophique, politique, marquée par la pierre angulaire de christianisme, de la chrétienté, l'Europe au XIXe n'a plus cette cohérence. L'Europe traverse une période extrêmement chaotique où de différents côtés la pensée critique du christianisme devient d'une certaine manière dominante. Alors je ne vais pas tout résumer, c'est quoi d'abord? C'est les effets de la Révolution française, très clairement. Ce sont aussi l'avènement comme nouvelle forme de pensée de la science moderne, et en particulier, ce qui est quand même déterminant, et Nietzsche va beaucoup s'intéresser à ce qu'on appelle science, les sciences humaines, les sciences de l'homme. Donc les sciences psychologiques, il s'intéresse beaucoup à ce que, à la fois, il s'appuie sur eux, il va en faire une critique. Il s'intéresse beaucoup à ceux qu'il appelle les psychologues britanniques, qui sont des scientifiques, philosophes, on peut dire des inventeurs, des pionniers des sciences humaines, comme on appelle ça aujourd'hui, que sont à la fois, par exemple, des gens comme Darwin et son évolution des espèces. Darwin qui, d'une certaine manière, démolit le christianisme. Même si Nietzsche montre qu'il ne va pas assez dans sa démolition du christianisme, parce qu'au bout du compte, ce que dit Nietzsche, on n'aura pas le temps. C'est intéressant de lire ses critiques de Darwin. À la fois, il célèbre Darwin pour sa fonction de déconstruction, mais dans un second temps, il critique Darwin en disant, mais au bout de son parcours, il revient à des catégories qui sont le christianisme, hein, pour le dire vite. Voilà. Mais en quoi Darwin démolit le christianisme? Parce qu'il prétend fonder une science de l'homme qui définit les lois de l'évolution de l'homme, des espèces plus largement, ce qui fait qu'en termes contemporains, parce que c'est un débat qui revient aujourd'hui très fort dans le monde occidental, en Europe mais surtout aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le créationnisme. Le créationnisme, les créationnistes sont ceux qui remettent en cause complètement toute pensée de type darwinien, au fond, qui pensent que l'homme est créé par Dieu une fois pour toutes, et qui a à partir de là une permanence ontologique du monde avec ses ordres des vivants, le végétal, l'animal et l'homme, avec cette hiérarchie, et que ça a été établi une fois pour toutes au moment de la création divine, d'accord? Ça c'est les créationnismes. Et Darwin remet complètement cela en cause à son époque, même si ça revient aujourd'hui, en disant mais non, il y a une évolution et prétend la fonder scientifiquement. Et en réalité, c'est l'évolutionnisme darwinien. Et puis, autre figure que Nietzsche met dans la catégorie des psychologues britanniques, c'est Spencer, qui est un philosophe, qui est aussi celui qui va inventer une forme de philosophie des sciences, ce qu'on appellerait comme ça par la suite. Voilà. Donc, le constat de la mort de Dieu, c'est cela, c'est la Révolution française et ses effets, c'est l'avènement de la pensée scientifique, et en particulier de la pensée scientifique du fait humain, des phénomènes humains, d'accord, qui casse complètement la représentation de l'homme qui est nécessaire dans une philosophie de Dieu, qui est que l'homme est un mystère. L'homme, fondamentalement, n'a pas une essence explicitable, explicable par différents déterminants sociaux, génétiques, psychologiques, historiques, que l'homme, fondamentalement, est un mystère. Pourquoi un mystère? Parce qu'il porte en lui, en son être, la trace de son créateur, qui est Dieu. Donc tout ça, effectivement, est balayé par la pensée scientifique. Alors, où il va y avoir un piège? Dans la pensée propre de Nietzsche. C'est que Nietzsche s'appuie effectivement sur la pensée scientifique pour montrer qu'on est dans un temps de la mort de Dieu, mais en même temps, il va démolir la pensée scientifique. Il la démolit, en gros, en disant que c'est une idéologie. Pour Nietzsche, la science est une idéologie. Oui, je partagerais volontiers ce point de vue. je partagerai volontiers que c'est ce qu'on appelle le scientisme, en fond, que le scientisme, comme idéologie de la science, donne une représentation du fait humain, qui est une idéologie et qui est parfaitement contestable. C'est-à-dire que ce qu'on croit, et c'est la critique de Nietzsche, si vous voulez, établir comme étant une vérité, n'est pas une vérité, parce que, alors, on va y venir après, Nietzsche met en cause la vérité qui, pour lui, renvoie à la métaphysique platonicienne. Et il est vrai que c'est une caractéristique de l'Occident que ce sont les Grecs qui inventent la notion de vrai et l'opposition entre le vrai et le faux. Et il n'y a pas de pensée scientifique qui ne soit pas basée sur cette dichotomie vrai et faux. C'est-à-dire que la science, c'est de démontrer que telle proposition est vraie et que telle proposition est fausse. Et c'est comme ça qu'avance la science. Et la mathématique est fondée là-dessus. Donc, pour Nietzsche, ça c'est de l'idéologie. Parce que Nietzsche met en cause cette vision binariste, comme il dit, du monde, séparée entre le vrai et le faux, qui pour lui n'existe pas, qui pour lui est une invention fantasmatique, qui pour Nietzsche ne prend pas en compte que y a de la vérité dans le mensonge, dans l'erreur, etc. De ce point de vue-là, on peut dire que Nietzsche se rapproche de deux autres monstres sacrés du 19e siècle, alors que leur pensée est très différente, effectivement, c'est Freud en particulier. Freud, alors je vous renvoie aussi à un très beau texte de Jean-Claude Milner sur le sujet, qui montre comment la pensée grecque était fondée sur le postulat de l'équation totale entre l'exactitude et la vérité. Et que ceci est remis en cause au XIXe siècle, et qu'on ne peut plus penser l'équation entre ce qui est exact, ce qui est le principe de la science, l'exactitude mathématique par exemple, l'exactitude d'une équation, et ce qui est vrai. Et notamment, Freud démolit cela en un sens, dans le sens où il montre que des erreurs, des mensonges, peuvent être plus vrais que, apparemment, des discours vrais. Alors, voilà, c'est toute la théorie des maîtres du soupçon. C'est André Glucksmann, que je respecte beaucoup, qui est mort il y a quelques années. André Glucksmann, qui était à la gauche prolétarienne, que j'ai eu à fréquenter, d'ailleurs, dans le 12e arrondissement où j'étais, c'était un type assez remarquable, très brillant, et qui a écrit « Les maîtres penseurs », qui est un vieux livre, maintenant, mais qui a été déterminant dans le retournement critique par rapport aux pensées qui ont donné lieu au totalitarisme politique. Le premier livre important, c'est important que je resitue ça, d'André Glucksmann, parce qu'il n'y a pas que lui, derrière lui, il y a toute une série d'autres courants, ou d'autres figures en France. Le premier livre important, ça s'appelle, de Glucksmann, « La cuisinière et le mangeur d'hommes ». Et c'est une critique du totalitarisme politique, principalement le stalinisme et le goulag. C'est un des premiers à faire connaître en France Solzhenitsyn, Glucksmann, hein, d'accord, et aussi du totalitarisme nazi. Et c'est un des premiers à montrer que, malgré les énormes différences, le nazisme d'un côté, le stalinisme de l'autre, peuvent se regrouper dans une même approche qu'on appelle le totalitarisme. Hein. C'est la vision d'une construction sociale comme une totalité homogène, qui va nier les singularités individuelles. Il y a un autre grand penseur de l'époque aussi qui a pensé ça et que je tiens à rappeler, qui est celui qui avait fondé un peu avant 68 ce mouvement avec Castoriadis qui s'appelait Socialisme ou Barbarie. Et ce penseur qui est mort, c'était Claude Lefort, L-E-F-O-R-T. Voilà. Donc Glucksmann a écrit ça d'abord et continue par les maîtres penseurs en réfléchissant sur quelle pensée, son hypothèse, c'est que le totalitarisme politique n'est pas né comme cela par hasard. Il est l'aboutissement de toute une tradition de pensée philosophique. Et ces penseurs, ces philosophes, au sens large du terme, qui pour Glucksmann sont coupables en amont du totalitarisme, c'est ce qu'il appelle les maîtres du soupçon. Les maîtres du soupçon qui inventent l'idéologie du soupçon. C'est-à-dire qui mettent en cause que ça soit vrai. Qui disent, c'est pas vrai, au fond, c'est qu'un mensonge. Donc, qui nomme-t-il comme cela? Donc Freud, évidemment, par rapport à ce qu'on vient de dire, à ce que je viens de dire avant, qui met en cause l'idée d'une proposition vraie, en disant, mais non, l'erreur, le mensonge sont aussi vrais, sont même plus vrais que le vrai. C'est aussi Nietzsche, pour Glucksmann, un des maîtres du soupçon, c'est Nietzsche, à travers le mouvement qu'on aborde là, c'est-à-dire qu'à travers sa mise en cause radicale du vrai. Et puis, une troisième figure qui est essentielle parmi les maîtres du soupçon, c'est Marx. Donc, qui est aussi un autre vecteur de la mort de Dieu. Pourquoi? Parce que Marx, qui amène le marxisme, c'est toute la première internationale et tout ce mouvement ouvrier marxiste, hein, parce que je rappelle quand même qu'il y a tout un mouvement ouvrier au XIXe siècle qui n'est pas du tout marxiste, qui est inspiré notamment des socialistes dits utopiques. Mais l'expression socialiste utopique vient de Marx, entre nous soit dit. Hein. C'était pour Marx une critique de ces socialistes qu'il estimait pas sérieux. Parce que Marx veut fondateur du socialisme scientifique. Donc les socialistes utopiques, c'est par opposition chez Marx aux socialistes scientifiques. Donc qui nomme-t-il comme socialiste utopique? C'est principalement, mais pas seulement, des Français. C'est la triade Saint-Simon, Fourier, Charles Fourier, et Proudhon. Pierre-Joseph Proudhon. Ils ne sont pas anarchistes, mais on peut assimiler à ça les anarchistes. Proudhon n'est pas anarchiste. Les anarchistes français n'ont pas été dominants en termes de théoriciens au départ. Alors, les anarchistes, après, s'inspirent de Proudhon, mais il ne se définit pas, il ne se pense pas comme un anarchiste. Les doctrinaires anarchistes, ça va être plutôt les Russes. Je rappelle Kropotkin, qui est un prince, le prince Kropotkin, K-R-O, et puis surtout Bakounine, voilà. Puis après, il y a... Alors, pour terminer sur les maîtres du soupçon et l'analyse critique de Glucksmann, donc vous voyez, du point de vue strict de la philosophie, si je laisse de côté Freud et puis aussi Marx, pour Glucksmann, donc, l'aboutissement des maîtres du soupçon, c'est Nietzsche. Il ne s'attaque pas à, pour des raisons historiques, en fait, à Heidegger, qu'il aurait pu introduire par la suite dans cette lignée. Parce que, quand il écrit cela, Heidegger, en France, n'est pas encore l'objet de d'enjeux et de débats déterminants. Voilà, c'est tout simplement cela. Mais par contre, il montre toute une filiation et ce qu'il raccroche à Nietzsche, c'est notamment Marx, donc, et Hegel, le penseur Hegel, et sa dialectique, sa philosophie de l'histoire, voilà. Alors, pourquoi Hegel, pourquoi Marx? C'est qu'en réalité, ce sont des penseurs qui vont contribuer à la déconstruction, à la démolition de la métaphysique platonicienne. Et qui remettent tous à leur façon en cause l'idée de vérité. Vous voyez un peu le paysage, hein, le paysage dans lequel s'inscrit ce constat de la mort de Dieu qui aboutit au nihilisme. D'accord. Et d'où l'impératif chez Nietzsche de renverser tout cela. D'un retournement des valeurs, Donc de ne plus penser à partir du vrai et du faux, de ne plus penser, et on va y venir, à partir de ce qui fonde au fond toute pensée morale, le bien et le mal, les catégories du bien et du mal. Alors c'est les deux, il est heureux au sens où pour lui il y a la promesse d'une libération de l'homme, parce que pour lui la religion et la morale platonicienne, la métaphysique, ont aliéné, on dirait en termes contemporains, l'homme, l'a rendu malheureux. Donc il y a une promesse de libération parce que, ecce homo, l'homme va pouvoir devenir, chaque homme va pouvoir devenir ce qu'il est, et non plus entravé par la morale, la métaphysique, etc. Donc il y a une promesse positive, mais en même temps, Nietzsche veut joyeux, mais sa vie et ce qu'il est ne sont pas forcément joyeuses. Et alors on peut renvoyer à sa maladie, à sa souffrance, à sa solitude, au sentiment d'être rejeté, etc. Mais ça mélange. Nietzsche n'est pas un penseur qui serait dans l'ataraxie des Grecs, c'est-à-dire un état de tranquillité de l'âme, de paix de l'âme. C'est pas du tout quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la paix de l'âme. Donc, pour lui, il faut nettoyer tout et tout ce qui participe de cet entravement de la liberté de l'individu. Donc la métaphysique, j'y reviens, la religion et au bout du compte la morale, quoi. La morale, et en particulier tout ce qui est nocif dans ce type de pensée, c'est une forme de dualisme, de dualisme corps-esprit, matière-âme, bien-mal, vrai-faux, etc. Toutes ces pensées dualistes, pour lui, c'est le mal, pour le coup. Et il s'agit de s'en éloigner. La différence entre le monde sensible et l'arrière-monde, c'est le monde suprasensible, etc. quoi. Tout cela, il faut dégager tout cela. Donc, son projet, à partir de là, c'est de réinventer l'homme. Et effectivement, pour lui, la culpabilité, c'est une des marques, un des symptômes, on va le dire comme ça, du nihilisme produit par la morale chrétienne et platonicienne. Voilà. Donc il s'agit de réinventer l'homme, et c'est en ce sens-là qu'il faut lever tout de suite un malentendu. La réinvention de l'homme, c'est ça qui est, pour Nietzsche, qu'il appelle le devenir du surhomme. Le devenir du surhomme, c'est l'homme réinventé. C'est l'homme qui s'est affranchi de la métaphysique et de la religion et de la morale. C'est ça, le surhomme. C'est l'homme qui devient véritablement ce qu'il est, non pas l'homme qui s'affirme dans ce qu'il n'est pas. Très concrètement, il y a quelque chose de très vrai là-dessus, vous allez comprendre. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nietzsche ne supporte pas quelqu'un qui, par exemple, dans un cercle, va se poser comme quelqu'un de bien, moi je suis bien, je suis bon, comme certaines figures de chrétiens, par exemple, que à moi, je suis honnête, l'honnête homme, la figure issue du 17e de l'honnête homme. Moi je suis honnête, moi je fais le bien. Nietzsche ne supporte pas cela parce que pour Nietzsche, ça c'est pas l'homme tel qu'il est, c'est un homme de mensonge. Et qui au fond, intérieurement, n'est pas dupe de lui-même et souffre lui-même d'être dans le mensonge et le cinéma permanent, vous voyez? Donc pour Nietzsche, le surhomme, c'est celui qui va se débarrasser de tous ses oripeaux, de tous ses masques, qui sont faux, mais qu'il faut au fond de lui souffrir, parce que l'homme est condamné à paraître ce qu'il n'est pas, C'est celui qui va s'affirmer comme ce qu'il est vraiment. Et comme tous les penseurs à l'époque, hein, c'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui est, il y a une connaissance réelle, et notamment chez les philologues, les métaphysiciens, il y a une connaissance réelle de tout ce qui est la pensée orientale, au sens large. Les pensées orientales, et en particulier les pensées issues de la Perse, et Zoroastre, c'est ça. Zarathoustra, c'est Zoroastre, fondamentalement. Zoroastre, je vous rappelle que c'est toute la pensée qui a fondé la grande civilisation persane, et qui est le fondement encore aujourd'hui de l'Iran, et qui va jusqu'en Chine. Oui, le schisme, alors le schisme, ça vient après. Le schisme, c'est une branche de l'islam, hein, mais qui n'est pas dépourvu de traces importantes du zoroastrisme. Oui. Mais en clair, Zarathoustra, c'est Zoroastre, c'est le même mot, hein, fondamentalement. Donc effectivement, Nietzsche en particulier, mais tous ont une connaissance des philosophies orientales. Donc y compris des philosophies chinoises, des philosophies japonaises, indiennes. Par exemple, on connaît parfaitement maintenant, à l'époque, le sanskrit, toute la civilisation indienne d'Inde. On connaît toutes les études linguistiques qui montrent que les langues européennes, ça vient de l'indo-européen, c'est-à-dire du sanskrit. Tout ça, c'est connu à l'époque. Hein. Donc, voilà. Oui, mais dans quoi? Dans la volonté de puissance, notamment. Mais oui, mais bon. Voilà. Je ne pense pas que ça soit un terme qu'il ait utilisé. Nietzsche utilise le terme allemand, les Allemands. Voilà. Et Nietzsche, dans un premier temps, a été incontestablement nationaliste. Il a été longtemps nationaliste, mais après, il s'est éloigné du nationalisme parce qu'il a été déçu, en fait. Il a été déçu par la politique, déjà. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout inscrit dans une vision politique du monde, que ce soit une politique qui est nationaliste ou pan-germaniste. Par exemple, le pan-germanisme. Vous savez, cette idéologie du 19e, du pan-germanisme, c'est en gros de l'idée que l'Allemagne pense, en grec ça veut dire tout, que l'Allemagne est tout et qu'il faut reconstituer l'empire germain chrétien du Moyen-Âge. Hein, voilà. Cette pensée qui se développe et qui va être un des terreaux du nazisme du Troisième Reich, cette pensée-là, Nietzsche la récuse totalement. Totalement. Voilà. Donc c'est pas par ce biais-là qu'il faut faire un procès à Nietzsche. Quoi. Le procès de Glucksmann est plus pertinent, c'est qu'effectivement, ce qu'il dit, c'est que tous ces philosophes et ces penseurs, et Freud y compris, Marx, Hegel, Nietzsche, ont orienté une vision de l'homme et du monde qui a pu, dans un second temps, déployer une philosophie, une doctrine politique qui donne lieu au régime totalitaire. C'est plus pertinent de penser les choses de cet angle-là, quoi. Incontestablement. Mais... Y compris la science. Oui. Oui, parce que pour lui, la science, c'est une idéologie, et rien de plus que ça, qui prolonge la pensée dualiste du monde. Qui prolonge cette pensée dualiste, c'est-à-dire notamment, il n'y a pas de science si on n'admet pas qu'il y a le vrai et le faux. La science, c'est un projet de la connaissance du vrai. Ça, on a beau retourner le problème dans tous les sens, la science c'est ça. Même si les scientifiques vont dire que c'est des vérités provisoires, ça ne change pas le problème, c'est que la pensée scientifique présuppose le vrai et le faux. Après, on s'interrogera dans un second temps sur le fait que la pensée de Nietzsche ne présuppose pas aussi ça, mais bon... Je crois que le gros problème de Nietzsche, c'est qu'on ne peut pas échapper à une forme de bipolarité, parce que par définition, la pensée humaine, c'est ce qu'il faut appeler la pensée humaine. C'est quoi penser? Ben, on peut renvoyer à Descartes. Penser, ou même ce que disait Platon, mais comme il est disqualifié par Nietzsche, on va laisser Platon. L'acte de penser, tout le monde, quand il pense, ne peut pas faire autrement qu'une opération de séparation. De séparation, de distinguer des catégories. On ne peut pas penser autrement. Penser, c'est séparer. Donc c'est créer des catégories. Le premier acte de séparation, c'est séparer deux catégories. C'est-à-dire que le un se divise en deux. Vous savez, ça c'était la pensée de Mao Tse-tung. Un se divise en deux. Et en toutes circonstances, un se divise en deux. Et si vous arrivez à penser autrement, vous êtes très fort, mais je pense que vous n'y arriverez pas. Dire qu'il y a, ça veut dire qu'il y a deux catégories qui polarisent la pensée et qui peuvent organiser le monde. Ces deux catégories, ça ne veut pas dire que ça soit, elles séparent le monde, effectivement, par une cloison, une muraille absolue. Ça peut autoriser les nuanciers, du plus blanc au plus noir, en passant par toutes les gammes de gris. Mais il n'en reste que, même si on a une pensée nuancée, la pensée nuancée est construite, la topologie mentale est construite à partir de deux pôles. Ah ben oui, il n'y a pas de justice autrement. Ben, à un moment donné, le juge va dire, il est coupable. Il a commis un acte mal, ou au contraire, il n'est pas coupable, il n'a pas commis d'acte mal, il était dans le bien. C'est inévitable. Oui, 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 mais la justice, c'est quand même par excellence tranché. La pensée juridique, c'est tranché. On ne peut pas considérer que la pensée juridique n'est pas une pensée de tranché. La pensée scientifique est basée, alors ça dépend des pensées, la pensée scientifique est construite sur deux choses. Elle est construite sur l'expérience, l'empiricité, c'est-à-dire le monde sensible, mais pas seulement. Et elle est pensée sur le monde suprasensible que les mathématiques permettent d'élaborer. La pensée scientifique, ce n'est pas un pragmatisme. Le pur pragmatisme, la pure empiricité, ce n'est pas ça la science. La science, c'est à partir d'observations empiriques, construire un ordre du monde grâce à la mathématique. Et la mathématique, par définition, c'est le monde qui ne se voit pas. Tu ne vois pas la mathématique, une équation, ça ne se voit pas. Par contre, c'est l'abstraction. Par contre, le pari, c'est que la construction abstraite qui appartient au monde des idées, de la logique si on veut, mais c'est pareil, le logos, hein, peut, on prétend qu'elle peut dire l'ordre qu'on voit, l'ordre sensible, du monde sensible. C'est ça le pari de la science. Donc la science n'échappe pas au platonisme, et en ce sens-là, Nietzsche a raison. Le coup Glucksmann a raison. La perspective de dépassement des contraires, ce n'est rien d'autre que la dialectique. La dialectique est hegélienne. Qu'est-ce que c'est? Ah ben si. Ah ben, le mouvement, la pensée d'Hegel, c'est quand même ça le génie de Hegel qu'il faut reconnaître. La pensée de Hegel, c'est une pensée du mouvement. C'est-à-dire que on est dans une chose contient son contraire. Et toute la pensée de Hegel, c'est de dire ben, ce que scolairement vous avez tous appris d'une manière simpliste, mais qui n'est pas fausse, thèse, antithèse, synthèse. Et la synthèse, c'est le dépassement, le par-delà, l'opposition de la thèse et de la synthèse. Donc ça c'est pas propre à ni la philosophie orientale, ni à Nietzsche. C'est déjà dans Hegel, c'est Hegel qui pense ça. Et la philosophie de l'histoire de Hegel, vous savez, qui est un des aspects, c'est loin d'être le tout, mais c'est l'aspect qui est facile à résumer rapidement, c'est le même mouvement, c'est-à-dire que l'histoire avance par des forces opposées et qui amène un dépassement. Et vous connaissez la dialectique du maître et de l'esclave, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ceux qui sont maîtres, c'est ceux qui, dans l'affrontement, ont préféré la liberté à la vie, donc n'ont pas craint de mourir. Donc ils ont préféré la liberté plutôt que de vivre, et du coup ils sont devenus les maîtres, plus forts. Les esclaves, c'est ceux qui ont préféré la vie à la liberté, et qui du coup ont préféré être esclaves. Donc il y a une domination des maîtres sur les esclaves. Mais les maîtres profitent de leur domination. Les esclaves, dans leur condition d'esclaves, s'endurcissent. Et les esclaves, le tour suivant, les esclaves deviennent, n'ont rien à perdre, pour le dire simplement. Donc, préfèrent retrouver une liberté à la vie, alors que les maîtres se sont amollis, et préfèrent la vie et la liberté. Donc, les esclaves deviennent les maîtres, et les maîtres esclaves. Voilà, c'est ce tourniquet, mais pour Hegel, c'est pas un cercle vicieux, pour Hegel, c'est dynamique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un dépassement de cela qui va aller vers une société où l'esprit triomphe. Alors après, il faut raccrocher tout ce que je viens de dire à sa philosophie de l'esprit. Hein. L'esprit triomphe et il va y avoir une nouvelle unité de l'ensemble qui n'est pas basée, qui est un dépassement de cette contradiction ou de ce rapport de force. Voilà, en gros. Mais dans la pensée bouddhiste, bon, qui est très très compliquée, je me suis risqué une fois avec une grande spécialiste de la pensée bouddhiste, je mets au défi quiconque qui ne consacre pas 20 ans de sa vie à comprendre quoi que ce soit. Hein. Donc, réellement, alors, en Europe, il y a un côté exotique qui fait que oh, c'est génial, mais franchement, c'est tellement un univers autre et complexe. Par exemple, pour vraiment comprendre la philosophie bouddhiste, au fond, il faut connaître le chinois. Il faut connaître la langue. Si on ne connaît pas la langue, parce que vous savez quand même que la langue, non seulement ça structure l'inconscient ou l'inconscient est structuré comme le langage, c'est faire CF Jack Lacan. mais on ne pense pas en dehors de la langue. Donc effectivement, une langue qui a une structure différente, il faut la connaître pour bien comprendre la pensée qui est issue de la langue. Bref, je ferme cette parenthèse. C'est-à-dire qu'effectivement, pour Nietzsche, la morale, c'est une construction. Il faut réinventer l'homme. L'homme est à venir, et cet homme à venir, c'est le surhomme. Surhomme au sens où c'est l'homme qui vient après l'homme, si vous voulez. Après l'homme dégradé. C'est l'homme qui vient après l'homme dégradé. C'est ça, fondamentalement, le surhomme. Et la surhumanité, c'est cela. L'apogée de cela, c'est effectivement la seconde moitié du 19e, quoi. Avec les courants, l'effet de la Révolution française, l'effet, la montée en puissance de la science, et notamment la science appliquée aux faits humains, et puis les rapports de force économiques, les rapports de production, la lutte des classes, tout ça, c'est ce qui est détruit. Oui, c'est une évolution lente, c'est une évolution depuis la modernité, c'est en gros depuis la Renaissance. Oui, tout à fait. Mais il y a des moments, comme dirait Michel Foucault, des moments charnières ou des moments de rupture, mutation quand même. Et de ce point de vue-là, le 19e siècle, faut lire Foucault, faut lire chez Foucault La volonté de savoir, par exemple, qui montre bien comment au 19e siècle, avec la science humaine, il y a une rupture. Il y a quand même une rupture dans l'histoire humaine. Réinventer l'homme, amener préparer le règne du vrai homme, de l'homme tel qu'il est, du sourope, donc, en ce sens, c'est passer par cette remise en cause de la métaphysique et de la morale, et en particulier, remise en cause du bien et du mal. Et c'est là que ça rejoint ce que tu disais, Françoise, de la citation de Musil. Pour Nietzsche, le bien et le mal ne sont qu'illusions et mensonges. Clairement. Le bien et le mal n'existent pas, C'est donc une construction imaginaire. On est dans l'illusion et le mensonge. C'est un jeu que j'appellerais de miroirs et de masques. C'est un jeu de miroirs et de masques. Et vous savez d'ailleurs que je rappellerai ça, la grande difficulté pour être ce qu'on est, c'est que pour être une personne, qu'il faut sortir du jeu de miroir et le masque, et c'est très compliqué. Vous savez même que les Romains, les Latins l'avaient compris. Vous savez que le mot, je rappelle que le mot personne vient du latin persona, et persona désigne un masque de théâtre, et que la société et les Romains est pensée comme un théâtre où chacun joue son rôle et qu'on est ce que j'appelle dans un jeu de miroirs et de masques. C'est précisément la force de cette pièce de Sartre dont j'ai déjà parlé, Huis clos. Huis clos, c'était précisément cela. D'où l'enfer, c'est les autres. Alors, pour appuyer cela, on va lire. On va commencer à lire un premier texte de Nietzsche à la lumière de cela. On va commencer par les extraits de la généalogie. Donc je lis au fur et à mesure et éventuellement je complète. Donc la généalogie de la morale, donc l'avant-propos. Qui a écrit entre parenthèses à Sils Maria, donc en Engadine, qui est ce havre de paix où Nietzsche a trouvé pendant pas mal d'années, de façon discontinue bien sûr, une forme de sérénité. C'est aussi là, au bord du lac de Sils Maria, le lac de Silvaplana, que Nietzsche a trouvé sa révélation, entre guillemets, le mythe de l'éternel rue. Donc, généalogie de la morale, l'avant-propos, 3. Grâce à un scrupule qui m'est propre et que je n'aime pas avouer, il se rapporte à la morale, à tout ce que l'on a exalté jusqu'à présent sous le nom de morale, à un scrupule qui surgit dans ma vie si tôt et d'une façon si inattendue, avec une force irrésistible, tellement en contradiction avec mon entourage, ma jeunesse et mon origine, si peu en rapport avec les exemples que j'avais sous les yeux, que j'aurais presque le droit de l'appeler mon a priori. Ma curiosité, aussi bien que mes soupçons, durent s'arrêter à temps devant cette question. Quelle origine doit-on attribuer en définitive à nos idées du bien et du mal ? Alors, il fait allusion au milieu dans lequel elle a baigné dès l'enfance, qui est un milieu luthérien, père-pasteur, et une société, une famille et une société marquée par le luthérianisme, c'est-à-dire cette forme du protestantisme assez austère et assez marquée par une morale rigoriste, si vous voulez. Le luthérianisme est quand même marqué par une morale très rigoriste. L'origine doit-on attribuer en définitif à nos idées du bien et du mal ? D'où cette entreprise d'une généalogie. La généalogie, vous savez ce que c'est par rapport à... Hein, et c'est un terme que va conceptualiser Foucault à partir de Nietzsche. Et Foucault, ce penseur contemporain très important quand même, est quelqu'un qui a pensé notamment à partir de Nietzsche. On ne peut pas dire qu'il soit nietzschéen, il a sa pensée propre, mais Foucault s'inspire par rapport à Nietzsche, enfin de Nietzsche, et en particulier toute la notion, sa méthodologie de la généalogie chez Foucault vient de Nietzsche. Bien que Foucault va substituer dans un second temps un second terme pour définir sa méthode de pensée, il parlera plus de généalogie, mais en gros, c'est très proche, d'archéologie. L'archéologie, par exemple, son livre, L'archéologie du savoir, mais c'est le même mouvement, c'est la même méthode. C'est-à-dire qu'en gros, il s'agit de creuser toutes les strates de pensée, de culture, qui constituent notre bain familier, notre bain quotidien. Il ne faut pas s'en laisser compter, il faut établir un soupçon c'est la méthode du soupçon, hein, se dire, mais mon bain quotidien, tout ce qui m'apparaît comme des évidences, comme des vérités vraies, et si tout ça, c'était une pure illusion. Ça rejoint une méthode du doute, donc il n'y a pas, effectivement, il y a un rapport avec Descartes de ce point de vue-là. Sauf que Descartes reste platonicien, c'est-à-dire que Descartes, au bout du compte, dit, il y a une vérité, quand on a creusé tout, il y a une vérité. La vérité, c'est déjà que je doute, et donc que j'existe, que le moi existe, que le moi existe, que le moi pensant existe, que la pensée est l'instance d'une vérité. Ce que met en cause Nietzsche. En ce sens-là que Nietzsche n'est pas platonicien, certes, mais n'est pas non plus cartésien. Contrairement à une autre grande figure de la philosophie allemande, que d'ailleurs, dans sa critique des pensées qui amènent le totalitarisme, les maîtres du succès, Glucksmann met hors jeu et qu'il sauve d'une certaine manière, c'est Emmanuel Kant. Kant n'est pas dans cette lignée-là, d'accord ? La lignée Fichte, qui est l'ancêtre, Fichte, Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger, si on veut bien. Et puis à côté, Freud. Donc, je continue. Cette généalogie, c'est précisément ça, c'est creuser, remonter le cours de ce qui est présent aujourd'hui pour trouver le premier, pour trouver ce qui est premier, l'origine. Ben, d'une certaine manière, il y a quelque chose de similaire quand Rousseau parle un peu de l'image comme des plures d'oignons pour retrouver qu'il faut enlever pour retrouver le cœur. Il y a quelque chose, et d'ailleurs, je ne sais pas si j'aurai le temps de l'aborder, mais on peut montrer le rapport très ambigu que Nietzsche a entretenu à Rousseau. Nietzsche était un lecteur de Rousseau, et il a beaucoup apprécié Rousseau. En même temps, il a fait une critique, parce qu'il trouvait que Rousseau était quand même trop imprégné de la pensée chrétienne. Bon, voilà. Mais effectivement, entre la méthode de Rousseau et cette méthode généalogique, on peut établir une proximité. Et de fait, j'étais encore un enfant de 13 ans, que déjà le problème de l'origine du mal me hantait. C'est à lui qu'à un âge où Dieu et les jeux de l'enfance partagent le cœur, je consacrais déjà mon premier enfantillage littéraire, mon premier exercice de calligraphie philosophique. J'aime bien la formulation. Et pour ce qui... Alors là il est un petit peu... il exagère, parce qu'il fait comme si, quand il pensait mal, parce que là c'est ce qu'il dit, je pensais mal avant, quand il passait mal, que je pensais encore que Dieu existait, ce n'était que de la calligraphie littéraire, ce n'était que de l'enfantillage. Il exagère parce qu'à 13 ans, on n'a pas 4 ans ou 5 ans. Hein. Moi, je prétends qu'à 13 ans, surtout à l'époque, à 13 ans, on a déjà une pensée qui se constitue incontestablement. Ah ben non, mais on peut pas généraliser en disant si on a 13 ans, ce qu'on dit ne vaut rien. Je veux dire, c'est exactement comme les politiques aujourd'hui, c'est comme les politiques et certains philosophes aujourd'hui qui, alors elle est un peu plus que 13 ans, mais pour eux c'est pareil, qui tournent en dérision Greta Thunberg en disant c'est une gamine, elle dit n'importe quoi, elle est, voilà, c'est exactement la même chose, quoi, voilà. Et c'est pas pour autant que je considère que ce que dit Greta Thunberg, c'est le sommet de la pensée. Je suis pas forcément d'accord, mais je ne supporte pas ces critiques des politiques et de certains philosophes, par exemple en France, mais pas qu'en France, qui disent Greta Thunberg, c'est une gamine, faut pas prendre au sérieux ce qu'elle raconte. Non. Et voilà. Ça les arrange de dire ça. Mais là, faut reconnaître que Nietzsche a l'arrange de dire qu'à 13 ans, il pense, c'était pas sérieusement, quoi. Je veux dire, c'est le même mouvement de pensée, hein, entre parenthèses. Bref. Et pour ce qui en est de la solution, entre guillemets, du problème que je proposais alors, il va de soi qu'elle fut à l'honneur de Dieu dont je faisais le père, en italique, dans le texte initial, le père du mal. Entre parenthèses, Lacan dit la même chose, quoi. Il dit, au moment de la scission dans les écoles de psychanalyse, il dit je perds sévère. Il dit la même chose. Fondamentalement, il dit la même chose. Je suis Dieu, mais je persévère, mais je suis impersévère. Était-ce mon a priori qui exigeait de moi une pareille conclusion? Ce nouvel a priori immoral, ou du moins immoraliste. Alors là, il introduit une nuance intéressante. Immoral et immoraliste, ce n'est pas la même chose. D'accord? Comme moral et moraliste, moralisateur, c'est pas la même chose. Pas la peine de commenter, vous comprenez. Et son expression, cet impératif catégorique, donc là, c'est une pierre dans le jardin d'Emmanuel Kant. Mais vous savez que Nietzsche ne supporte pas Kant. D'ailleurs, j'avais pas vu le mot et juste après. Et l'assise anti-kantien. Alors, l'impératif catégorique, les impératifs catégorique de Kant, c'est notamment ce que Nietzsche va critiquer énormément, l'idée du tu dois, le sentiment du devoir. La pensée morale de Nietzsche est fondée sur l'idée de devoir, tu dois, je dois, et cette pensée du devoir, Nietzsche la balaye totalement. Et là, si conscient, si énigmatique, à quoi, sur ces entrefaites, j'ai toujours davantage prêté l'oreille? Heureusement, j'appris bientôt à distinguer le préjugé théologique du préjugé moral, et je ne cherchais plus l'origine du mal au-delà du monde. Donc au-delà du monde, c'est le monde invisible, c'est l'arrière-monde, c'est le monde de la métaphysique, c'est le monde des idées. Avec éducation historique et philologique, non sans un tact inné, délicat, à l'endroit des questions psychologiques en général, transformèrent promptement mon problème en un autre. Il montre comment il a évolué dans sa pensée. Donc comment il reformule la question, dans quelles conditions l'homme s'est-il inventé à son usage ces deux évaluations, le bien et le mal? Et quelles valeurs ont-elles par elles-mêmes? Ont-elles jusqu'à présent enrayé ou favorisé le développement de l'humanité? Sont-elles un symptôme de détresse, d'appauvrissement vital, de dégénérescence? Ou bien trahissent-elles, au contraire, la plénitude, la force, la volonté de vivre, le courage, la confiance en l'avenir de la vie? Donc très clairement, Nietzsche oppose l'enfermement dans les catégories du bien et du mal, d'accord? Et d'un autre côté, l'avenir de la vie, c'est-à-dire la vie. Et ce qu'il va développer, c'est que ces catégories empêchent le développement de la vie. En clair, voilà. Donc, par rapport à la question, ont-elles jusqu'à présent enrayé ou favorisé le développement de l'humanité? Clairement, sa réponse, c'est ça a enrayé le développement de l'humanité, ce ne l'a pas développé. Et sont-elles un symptôme de détresse, d'appauvrissement vital, de dégénérescence? Clairement, sa réponse, c'est que ça a amené la dégénérescence, ce qu'il appelle très fréquemment, et c'est pas sans poser problème, on va y revenir un peu après, ce qu'il appelle la maladie, l'homme malade. Par opposition à ce qui est du côté de la vie, c'est-à-dire la grande santé. L'homme de la grande santé, pour lui, la grande santé, c'est l'homme libéré du bien et du mal, c'est-à-dire l'homme libéré de sa maladie. Pour le moment, il dit simplement « immoraliste ». Que penser de cela, d'emblée, qui est posé clairement? On peut penser, me semble-t-il, deux choses. La première, c'est qu'il y a une entreprise salutaire, incontestablement, du temps de Nietzsche, du temps de la société européenne du Nietzsche. Cette entreprise salutaire, c'est de montrer, c'est la même entreprise salutaire que celle de Freud, par l'allemand, enfin un peu après, et celle de Marx. C'est-à-dire de montrer qu'au fond, toutes ces idées constituent, là je prends les termes de Marx, qui sont les plus clairs, constitue un voile jeté sur la réalité. C'est un voile qu'on jette sur la réalité qui ne permet plus de voir la réalité. Chez Marx, c'est que c'est une idéologie bourgeoise qui masque la réalité des rapports d'exploitation de l'homme par l'homme. Donc Nietzsche, sur un plan différent, dit la même chose. C'est que c'est une illusion, c'est que ça masque le réel, c'est-à-dire la vie. Ça empêche de voir l'élan de la vie, la force de la vie telle qu'elle est. Ça gomme le vivant. D'accord ? Ça empêche la volonté de vivre. Donc pour Nietzsche, c'est une entreprise salutaire et il est incontestable que dans cette société allemande, mais plus largement européenne, de cette seconde moitié du 19e siècle, il y a une chape de plomb qui empêche au fond le bien-être possible de l'individu. Donc de ce point de vue, ça, il y a un mouvement salutaire et déterminant de l'acte nietzschéen. Après, on peut s'interroger sur aujourd'hui. Et on le verra par la suite. Aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes, mais qui vont peut-être se retourner à nouveau. Le premier problème, c'est que, de façon dominante, aujourd'hui, le constat que l'on peut faire de l'Europe, c'est que l'Europe est devenue nietzschéenne. Pas forcément consciemment, sans le savoir, souvent. L'Europe est devenue nietzschéenne, c'est-à-dire qu'en clair, l'Europe a fait sienne la conséquence de si Dieu est mort, à savoir tout est permis. C'est-à-dire que le problème de remettre en cause l'évaluation bien et mal, la conséquence de la remise en cause de l'évaluation en termes bien et mal, c'est quoi? Eh bien, s'il n'y a pas de bien, s'il n'y a pas de mal, si on met en cause dans notre vision du monde ce système des valeurs, tout est permis. Pourquoi tout est permis? Tout est permis parce qu'il y a une équivalence des valeurs. Il y a une équivalence généralisée des valeurs. D'accord? Or, deux remarques sur l'équivalence généralisée. La première remarque, c'est que ça rejoint, que j'appelle être une idéologie dominante aujourd'hui, ça rejoint l'idéologie du libéralisme. Et je dirais même de l'ultralibéralisme. L'ultralibéralisme, c'est la circulation généralisée de la marchandise, qui ajoute que tout est marchandise. La culture est marchandise, les objets culturels sont marchandises, l'art est marchandise. Cette circulation généralisée, les valeurs sont marchandises, les religions, on peut les accepter, sont marchandises. Cette vision du monde que triomphante aujourd'hui, qui est l'ultralibéralisme, c'est-à-dire que tout est marchandise et que tout peut s'échanger. Le présupposé du libre-échange de tout, c'est quoi? C'est que tout s'équivaut. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui permet l'acte d'équivalence généralisée? C'est qu'on peut ramener tout à une même mesure qu'est l'argent, qu'est la monnaie. Un avatar de l'ultralibéralisme, c'est ce qu'on a appelé le New Age, qui est venu aux États-Unis, qui est venu ici. Le New Age, c'est quoi? C'est qu'on considère que les valeurs spirituelles, etc., ça s'inscrit dans un grand marché, self-service, où chacun puise librement, à sa convenance, les petites valeurs, quoi. Et on peut imaginer que dans l'ultralibéralisme, c'est intégré ce besoin. Mais c'est vu comme un besoin. Et qu'on peut valoir, y compris financièrement. Ben, regardez aux États-Unis, les grands prédicateurs aujourd'hui, c'est du business. Il n'y a pas de séparation entre la marchandise qu'offre un grand prédicateur, qui fait son business et qui se fait payer cher, ou même tous les anciens présidents de la République, y compris français, y compris Strauss-Kahn, qui gagnent leur business en vendant des idées, qui font une conférence en vendant une idée. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui n'est plus du tout celle du temps de Nietzsche, une situation où tout s'équivaut parce que les grands systèmes de valeurs ont été détruits, radicalement détruits quand même, radicalement détruits. Pris à juste titre, les idéologies ont été déconstruites dans les années... La fin de la déconstruction des idéologies, c'est ce que je disais, c'est les années 70, etc., la remise en cause des totalitarismes. Donc, de ce point de vue-là, le monde et la critique nietzschéenne sont devenus notre, pour le coup, notre pain quotidien. Donc, on ne peut plus avoir un rapport de Nietzsche de la même manière. Aujourd'hui, il faut critiquer, c'est une nécessité de critiquer les effets de la pensée nietzschéenne, de la déconstruction. Mais, parce que les choses se retournent toujours, mais par rapport à l'impasse qu'on est en train de vivre aujourd'hui timidement, mais qui va s'accentuer, l'impasse de cette grande équivalence généralisée, c'est-à-dire qu'en gros, tout s'équivaut et qu'après, le système des valeurs, c'est qu'un système, on va le voir dans le texte de Nietzsche après, de domination. C'est ce que dit Nietzsche, c'est un système de domination. L'impasse de cela, c'est quoi? C'est ce qui va commencer à opérer un retournement, lui, que ça crée du chaos. Et d'où le fait qu'il y a un retour en puissance, et un retour d'autant plus violent qu'on est dans le chaos, de nouvelles formes d'intégrisme, de rigorisme métaphysico-religieux et moral aujourd'hui. C'est les mouvements de type le mariage pour tous, l'intégrisme chrétien, c'est l'islamisme. C'est ce que l'on trouve partout comme un retour devant le vide créé, un retour des vieux systèmes, et d'autant plus violent. Donc, à nouveau, on est dans ce que Sartre appelait un tourniquet. On est, ce qui est une forme de dialectique de l'histoire. On est à nouveau confronté, on va être à nouveau confronté dans un monde nietzschéen où le vide crée à nouveau des intégrismes, appelons ça comme ça en termes contemporains. On va être à nouveau confronté à la nécessité de la critique nietzschéenne. Mais le problème, c'est pas... Si on est en rond, on ne s'en sort pas. Le problème, c'est que si on revient à l'outil nietzschéen, on va revenir aux causes, on va réactiver les causes qui ont amené le vide d'aujourd'hui. Vous voyez? Alors, qu'on me démontre le contraire. Mais on va le voir par la suite. On va le voir par la suite parce que c'est implacable, c'est implacable. Le monde est nietzschéen. Vous pouvez l'admettre, le monde est nietzschéen. Par rapport à plein d'aspects. Aujourd'hui, le monde est nietzschéen. Lecture nietzschéenne, c'est des gens comme Bataille, c'est des gens... Prenons la France. Des gens comme Michel Foucault, comme, etc., qui ont eu une influence déterminante dans notre bain culturel. Influence déterminante. Et cette influence a façonné notre vision du monde, incontestablement. Et d'ailleurs... c'est ce qu'on appelle aux États-Unis les libertariens. L'ultralibéralisme vient des libertariens. C'est la même chose. Continuons de lire. On peut lire encore le paragraphe suivant, si. C'est la généalogie de la morale, l'avant-propos numéro 6. Ce problème de la valeur de la pitié et de la morale altruiste. Donc là, c'est Rousseau qui est directement visé. Hein. Je suis un adversaire de la honteuse efféminisation du sentiment qui a cours aujourd'hui. Parenthèse, je vous laisse en tirer toutes les conclusions que vous voulez. Le problème ne paraît être tout d'abord qu'une question isolée, un point d'interrogation unique à part, la question de la pitié. Et en fait, ce qu'il montre à juste titre, en tant que lecteur de Rousseau, c'est que c'est un problème majeur. Mais à celui qui s'arrêtera ici une seule fois à celui qui apprendra à interroger, il lui en adviendra, comme il m'en est advenu, une perspective nouvelle, immense, s'ouvrira devant lui, la vision d'une possibilité le saisira comme un vertige, toutes espèces de méfiance, de soupçons, d'appréhension se feront jour, la foi en la morale, en toute morale, chancellera. Enfin, une exigence nouvelle élèvera la voix. Énonçons là cette exigence nouvelle. Nous avons besoin d'une critique des valeurs morales et la valeur de ces valeurs doit tout d'abord être mise en question. Et pour cela, il est de toute nécessité de connaître les conditions et les milieux qui leur ont donné naissance, au sein desquels elles se sont développées et déformées. La morale, en tant que conséquence, symptôme, masque, il utilise le terme de masque, hein, tartufferie, maladie ou malentendu, il utilise le terme de maladie, mais aussi la morale en tant que cause, remède, stimulant, entrave ou poison. Connaissance telle qu'il n'en a pas eu de pareil jusqu'à présent, telle qu'on ne la recherchait même pas. On tenait la valeur de ces valeurs pour donnée, réelle. Donc là, c'est une critique notamment de Platon, de la métaphysique platonicienne. Là, je vous rappelle que les platoniciens au Moyen-Âge, on les appelait les réalistes. Pas du tout les idéalistes. C'était les réalistes. Réel, au-delà de toute mise en question, et c'est sans le moindre doute et la moindre hésitation que l'on a jusqu'à présent attribué au bon une valeur supérieure à celle du méchant. Donc vous voyez, je reviens sur ce que je disais avant. Nietzsche met en cause la hiérarchie des valeurs. Il remet en cause, là, cette phrase est déterminante, le fait qu'on puisse attribuer au bon une valeur supérieure à celle du méchant. C'est-à-dire qu'il remet en cause la hiérarchie des valeurs. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, ce qu'il veut dire, c'est que le bon et le méchant, c'est équivalent. C'est équivalent. C'est-à-dire qu'il introduit là cette notion d'équivalence généralisée. Je termine vite le paragraphe. Supérieur au sens du progrès, de l'utilité, de l'influence féconde pour ce qui regarde le développement de l'homme en général, sans oublier l'avenir de l'homme. Comment ? Que serait si le contraire était vrai ? Si dans l'homme bon, il y avait un symptôme de recul, quelque chose comme un danger, une séduction, un poison, un narcotique qui fait peut-être vivre le présent aux dépens de l'avenir. Donc là, la méthode du soupçon. D'une façon plus agréable, plus inoffensive peut-être, mais aussi dans un style plus mesquin, plus bas. En sorte que si le plus haut degré de puissance et de splendeur du type homme possible en lui-même n'a jamais été atteint, la faute en série précisément à la morale. En sorte que entre tous les dangers, la morale serait le danger par excellence. Bref, on est obligé d'en rester là aujourd'hui.